Alors, paracha cette semaine, c'est parachat Itro. Avant de commencer, j'ai vu quelque chose de beau qui est rapporté dans le Midrash. C'est marqué dans le Midrash, il vaut mieux un voisin proche qu'un frère loin. Qui veut dire, des fois tu as un frère, mais ce frère-là, il est loin. Il n'est pas, il vient pas t'aider, ou des fois il veut pas t'aider. Mais des fois tu as un voisin qui est mieux qu'un frère. Un bon voisin, il est là toujours pour t'aider. Si tu as besoin de quelque chose, il est toujours là, il a ton service. Alors, le roi Salomon, il a dit, il vaut mieux un voisin proche qu'un frère qui est loin. Et sur qui il le dit? Le Midrash dit, il le dit sur Itro. Mais quel est le rapport? Ça veut dire, quel est le rapport entre un bon voisin, un frère qui est loin, avec Itro? Là, ils disent que ce Shabbat-là, on va lire le 10 commandements dans la paracha. Dans paracha Itro, on va lire les 10 commandements. Et dans la Torah, si on regarde le nombre de parachiot, ça veut dire là, même si on a une paracha qui s'appelle Bereshit, Bereshit c'est pas une paracha au complet, il y a des petites subdivisions dans la paracha. Combien de subdivisions qu'on appelle parachiot il y a dans toute la Torah? 175. 175 subdivisions de toutes les parachiotes. Et pourquoi 175? Compte les années de vie d'Abraham Avinu. Abraham Avinu l'a vécu 175 ans. Mais en vérité, Abraham a dû vivre plus que ça. Il a dû vivre 180 ans. Pourquoi? Tous les patriarches, ils étaient censés de vivre 180 ans. Regardez Yitzhak, il a vécu 180 ans. Yaakov, il a vécu 147. Mais la Torah nous dit, en vérité, il a dû vivre 180. Il a raté, ça veut dire, on lui a raccourci 33 ans de sa vie. Quand il a rencontré Paro, quand il est venu de Canaan, il est venu en Égypte pour la première fois, son fils Yosef, il l'a présenté à Paro, il commençait à se plaindre de sa vie. Il dit, tu sais, ma vie, j'ai l'air vieux, mais ma vie était pleine de trous, pleine de souffrances, tout ça. La Torah lui dit, pour chaque mot que tu as dit, que tu te plaignais auprès de lui, on t'enlève une année de vie. Alors, il y avait 33 mots en total, au lieu de 180, 147. Mais c'était censé être 180. Abraham Avinu aussi, il a vécu 175, mais il a dû vivre 180. Qu'est-ce qui a raccourci la vie d'Abraham? Esav, son petit-fils. Hachem lui a promis à Abraham qu'il ne quittera pas ce monde avant de voir ses enfants et ses petits-enfants dans le chemin de la Torah. Or que à l'âge de 175 ans, Esav est atteint à l'âge de 13 ans, de Bar Mitzvah, et c'est là qu'il a dévié, il a pris une autre route. Et Hachem a promis à Abraham de ne pas voir telle chose, il lui a enlevé 5 ans avant son temps. En vérité, il a dû vivre 180 ans, mais à cause qu'il ne voit pas qu'est-ce qu'il fait Esav, il lui a enlevé 5 ans de sa vie. Qu'est-ce qui arrive? Si Abraham aurait vécu, il aurait vécu 180 ans, on aurait eu dans la Torah combien? 180 subdivisions, au lieu de 175. Ça veut dire que Esav, il a raccourci 5 parachutes de la Torah à cause de lui. Itro, pourquoi la paracha s'appelle Itro? La paracha s'appelait pas Itro, c'est le nom qui a été donné pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'Itro s'est converti, il s'est joint au peuple. Et à quoi il dit, le conseil qu'il va donner dans la paracha, il va donner un petit conseil à Moshe Rabbeinu, son beau-fils. Il va lui dire, tu ne peux pas faire tout seul, il faut avoir de l'aide, il faut avoir des autres juges, il faut avoir des autres magistrats qui t'aident. À cause de ce conseil qu'il a donné, on a ajouté un paragraphe, un passage en plus dans la Torah. Ça veut dire qu'Itro, qui était loin, c'était un voisin, il était notre voisin. Pourquoi? Il habitait dans le désert, il n'était pas juif. C'était quand même voisin. Mais lui, il est beaucoup mieux que Esav, qui était un frère. Esav, c'est le frère de Yaakov. Mais Esav, ce Esav-là, il était tellement méchant, tellement mauvais, qu'il a enlevé 5 parachas de la Torah. Tandis qu'Itro, qui était rien que voisin de nos déserts, il a ajouté une paracha dans la Torah. Il vaut mieux un voisin proche qu'un frère qui est loin. Et ça fait allusion à Esav. Dans la paracha d'Itro, c'est écrit que Itro entend, Vaishma Itro, il a entendu, et il est venu se joindre au peuple. Il y a toute une discussion qui n'a jamais été résolue. Itro se convertit quand? Avant la réception de la Torah ou après la réception de la Torah? Est-ce qu'il est venu avant le don de la Torah pour se convertir et recevoir la Torah avec le reste du peuple? Ou d'abord non, il est resté chez lui. On a reçu la Torah, comme on va lire dans la paracha, et rien qu'après il est venu se convertir. Cette question n'a jamais été résolue dans le Talmud, ni dans le commentateur. C'est resté comme ça, teko. Ça, Elia, on a vu un jour, il nous dira exactement quand est-ce qu'Itro se convertit. Mais qu'est-ce qu'il a entendu, Itro, qui lui a fait venir? Drashit, deux choses. La traversée de la mer, quand la mer s'est ouverte en 12 morceaux et l'a laissé passer tout le juif. Et ensuite de cela, il a écouté la guerre d'Amalek. La semaine dernière, quand on a conclu la paracha, on a parlé de Amalek. Amalek, une nation qui a fait 1600 kilomètres, 400 parsa, chaque parsa c'est 4 kilomètres, 1600 kilomètres, cette nation est venue pour nous attaquer. Pourquoi? Sans raison. Isaïe le juif. Sans raison, il n'y a pas de raison. C'est un peuple qui vient de sortir, qui vient de se libérer. On va les attaquer et c'est une double attaque. C'est l'attaque contre le peuple et contre son Dieu. Alors Hachem dit, tant que ce Amalek là existe dans le monde, mon nom il n'est pas complet. Cette paracha va se répéter, on va la lire pour Purim. Bientôt c'est pour Purim, Hachem. Dans un mois, on va répéter l'histoire de Amalek. Alors Yitro il entend ces deux choses là, la traversée de la mer et l'histoire de Amalek, et il vient. Mais quel est le rapport entre les deux? Et qu'est-ce qui lui fait venir? Est-ce que c'est le seul qui a entendu cela? C'est écrit dans la Shirat Hayam qu'on a lu la semaine dernière. Shamu Amim. Toutes les nations ont écouté la division de la mer. Pourquoi? C'est écrit que là où tu étais dans le monde, en ce moment que les Hébreux passaient la mer, c'est ça? Si tu avais un verre de l'eau dans la main, dans le verre, l'eau s'est divisée en deux. Tu es en train de prendre un bain. Dans le bain, l'eau s'est divisée en deux. Partout, l'eau s'est divisée en deux. Et là, tout le monde, le non-juif se demandait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait que tout l'eau se divise en deux? Et là, ils se parlaient entre eux, vous savez, les Hébreux sont en train de passer maintenant Yam Souf. Et là, Shamo Amim, tout le monde en a entendu. Et pourquoi la Torah a dit, Vaishma Yitro, c'est le seul qui a entendu, tout le monde a entendu. Quel est spécial lui? Lui est spécial parce que Vaishma Yitro, et il est venu. Les autres, ils ont été impressionnés, mais ils sont restés à leur place. Lui, il est venu se convertir et nous joindre. Les autres, ils disent, ah, c'est beau et tout ça, c'est un miracle, c'est extraordinaire et tout. Mais ils sont restés comme ils étaient avant. Mais en vérité, qu'est-ce qui a fait Yitro de changer sa vie et venir se convertir? Alors, on va expliquer Bezrat Hashem. C'est écrit que Yitro, il ne vient pas seul. La Torah nous dit, il prend sa fille, Tzipora, qui était la femme, la ex-femme de Moshe Rabbeinu, et les deux enfants. Il avait deux enfants, Moshe Rabbeinu. Gershom et Eliezer. C'est ça, Gershom et Eliezer. Pourquoi ex-femme? Parce que Moshe a divorcé sa femme. Quand Moshe était prêt d'aller à la mission qu'Akadosh lui a donnée de sauver les Hébreux, il a pris sa femme et ses deux enfants. Il rencontre son frère Aaron et son frère lui dit quoi? Est-ce qu'il manque des esclaves en Égypte? Tu ajoutes trois autres? Pourquoi tu apportes ces trois-là? Il y a tous les Hébreux, ils sont en esclavage. Maintenant tu vas les apporter eux aussi, tu vas les ajouter au esclavage. Pas besoin. Laisse-la chez sa mère. Et on ne sait pas quand on va retourner cette mission. Tu ne vas pas le laisser comme ça. Alors il était obligé de divorcer sa femme. Là, Yitro, il entend que les Hébreux sont sortis de l'Égypte. Ils ont passé la mer et tout ça. Alors il dit, c'est le moment de prendre ma fille, qui est la ex-femme de Moshe Rabbeinu, et je l'amène chez son mari. Alors il envoie un message. Si tu me fais pas honneur à moi, fais honneur à ta femme et tes enfants. Et reprends ta femme et tes deux enfants. Et pourquoi il a trouvé l'occasion maintenant? Il n'y avait pas des occasions avant. Parce que il croyait, lui c'était quoi? Lui c'était Yitro Kohen Midian, le prêtre du Midian. Et Moshe Rabbeinu, il croyait aussi. C'est le chef de la génération. Le chef, c'est un Kohen, c'est un prêtre. Or, l'Alaha dit, un Kohen qui a divorcé sa femme, il ne peut plus la reprendre. Alors Yitro pensait, comme lui, le prêtre. Parce que lui, c'était le chef de nation du monde, c'était le prêtre de nation du monde. Moshe Rabbeinu aussi, c'est un Kohen. Alors il a dit, il ne peut pas reprendre sa femme, c'est fini, il a divorcé sa femme. Mais quand il a entendu que quand les juifs sont sortis, c'est Aaron qui est Kohen. Et Moshe restait Lévi. Pourquoi Moshe est Lévi? C'est écrit que quand Hachem a donné la mission à Moshe Rabbeinu, il dit, va sauver les Hébreux, 7 jours, il a refusé. Akadosh Baruch Hu était en train de lui parler 7 jours, à côté de ce buisson qui est en train de brûler et de ne pas se consommer. Il était là-bas 7 jours en train de dialoguer avec Hachem. Hachem dit, vas-y, dit non, je veux pas, il y a Aaron, mon frère, qui est plus grand de moi. On voit avec lui tout ça, 7 jours. À la fin, Akadosh Baruch Hu dit, si tu vas pas, ils vont pas sortir de l'Égypte. Et il était obligé de partir. Mais là-bas, la Gemara dit, à cause qu'il a tellement insisté avec Hachem, il a été puni. En quoi il a été puni? Il a été puni que normalement, il devrait être le Kohen du peuple. Et c'est de lui qui doit sortir cette branche qui s'appelle Kohen, puisqu'il a trop refusé Hachem. Hachem a dit, la punition sera, tu resteras Lévi. C'est ton frère Aaron qui va devenir le Kohen et toi tu seras Lévi. Quand Yitro a écouté ça, il dit, ah, c'est bon, Hachem. Oh Hachem, maintenant, il peut reprendre sa femme. Dès qu'il entend que les Hébreux sont sortis, il reprend Tzipora, il prend Tzipora, ses deux enfants, il lui dit à Moshe, maintenant tu as le droit de reprendre ta femme. Il a repris. Il a repris sa femme Tzipora et les deux enfants. Top. Maintenant, ils connaissaient les lois de la Torah. Ils connaissaient. C'était des lois qui étaient connues. Alors, maintenant, les enfants de Moshe Rabbeinu, comment ils s'appelaient? Gershom et Eliezer. C'est quoi la signification de ce mot? Alors, la Torah nous dit, Gershom, c'est Gershom, un étranger là-bas. Quand il a eu le premier fils, il l'appelait Gershom. Moi, je suis un étranger. Pourquoi il est étranger? Lui, il est né en Égypte. Mais malheureusement, il a été exilé de l'Égypte. Pourquoi? À cause de l'histoire qu'il a tué un Égyptien qui frappait l'Hébreu. Et le lendemain, Paro, il l'a trouvé. Alors, Paro voulait le tuer. Il était obligé de se sauver à Midian. Alors, à Midian, il était étranger. Alors, il a appelé Gershom, son premier fils. Deuxième fils, comment il l'appelle? Eliezer. Eliezer. Mon Dieu m'a aidé. En quoi? Parce que Paro voulait le tuer. Et Hachem l'a aidé, que Paro, au moment qu'il a donné l'ordre, il est devenu surmuet. Il ne pouvait pas parler. Il est devenu muet. Et les autres sont devenus sourds. Il ne pouvait pas écouter. Et comme ça que Moshe Rabbeinu s'est sauvé. Maintenant, tout le commentateur se pose la question. Dans ce cas, si on va ensuite les ordres des événements, il ne fallait pas appeler le premier Gershom et le deuxième Eliezer. C'est le premier qui devait être appelé Eliezer. Et le deuxième, Gershom. Pourquoi? D'abord, il s'est sauvé. Hachem l'a sauvé de Paro. Alors, il fallait appeler le premier Eliezer. Et ensuite, quand il est parti à Midian, c'est là qu'il est devenu étranger. Il fallait appeler le deuxième Gershom. Mais il appelle le premier Gershom. Le deuxième, il appelle Eliezer. Alors, en vérité, ils disent que le mot Gershom veut dire que Gershom. Gershom, ça veut dire je suis étranger là-bas ou partout. Même en Égypte, ce n'était pas sa terre. Alors Moshe, il a appelé son fils Gershom, pas parce qu'il a été exilé à Midian, pour dire qu'il se sentait sur terre comme un étranger. Comme dit David HaMelech, Ger Anochi Ba'aretz, je suis un étranger sur terre, dit David HaMelech. Il y a des gens qui pensent quand ils viennent ici, ils sont là pour des éternités. Ils s'installent, ils construisent, ils font, mais ils ne savent pas qu'un jour, à quoi je vous dis, hop, il faut, c'est le temps de voyager. Alors Moshe Rabbein a dit, Gershom, je suis étranger partout. Que ce soit en Égypte, que ce soit en dans ce monde, tu n'es pas installé. Ensuite, il a appelé le deuxième Eliezer. Donc, c'est écrit dans le Midrash, quand Moshe Rabbeinu est monté recevoir les tables de la loi, c'est écrit qu'il a vu, Hachem lui a montré plusieurs générations jusqu'à la fin de temps. Toutes les générations de tout le rabbin, tout le Tanaïm, tout l'Amoraïm, tout ce qui va se passer au monde, il lui a montré. Et Moshe Rabbeinu, à un certain moment, il a vu deux rabbins en train de discuter. De quoi ils discutaient? Ils discutaient de la vache rousse. C'est quoi la vache rousse? La vache rousse, c'est elle qui purifie tous les hommes qui sont impurs. Quand quelqu'un touche un cadavre d'un mort, ou un reptile qui est mort, ça, dans ce cas, il devient impur. Pour qu'il puisse se purifier et puisse rentrer dans le temple, il fallait trouver une vache rousse complètement, innocente, rousse au complet, même pas deux cheveux, deux poils qui sont noirs. Et là, on égorgeait cette vache, on la brûlait, et le sang qu'on ramassait de cette vache, on mélangeait avec de l'eau, et on aspergeait tout cela qu'ils étaient impurs. Jusqu'à date, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que 9. La dixième se trouvera, on dit, au temps de Mashiach. Chaque fois, ils trouvent, et chaque fois, il faut qu'elle atteigne un certain âge, parce qu'on ne peut pas la prendre quand elle est bébé. Alors, il faut la prendre à un certain âge. Dans le ciel, Moshe Rabbeinu a vu une discussion. À quel âge on peut prendre cette vache? Chachamim disait à l'âge de 3 ans. Rabbi Eliezer disait à l'âge de 2 ans. C'est ça? Et comme ça, ils discutaient 3 ans, 2 ans. Moshe Rabbeinu, quand il a vu Rabbi Eliezer, il a dit, j'espère qu'un jour j'aurai un petit-fils ou un fils qui va s'appeler Eliezer. Parce que je veux que celui-là, il soit de ma descendance. Parce que Eliezer, la discussion, elle est beaucoup plus tard. Alors il a dit, j'espère que ce Rabbi Eliezer qui est en train de dire que la vache devra avoir 2 ans, j'espère qu'il sera de ma descendance. Quel est le rapport? Ça veut dire, qu'est-ce que ça a à voir? Alors on va expliquer. Quel est le sens de la vache rousse? Est-ce qu'on sait le sens de la vache rousse? Non, on ne sait pas. Ça, c'est un des lois de la Torah qui s'appelle Chok. Chok, ça veut dire une loi non explicable. Il n'y a pas d'explication. Il y a peut-être des tentations d'explication, mais il n'y a pas. Mais bientôt, Be'at Hashem, vers la fin, on va expliquer un peu la discussion de Chachamim Rabbi Eliezer, et vous allez comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu voulait que cet enfant qui s'appelle le Rabbi Eliezer, qui disait que l'âge de lavage devait être 2 ans, pourquoi lui voulait que ce rabbin soit de sa descendance. Alors on va continuer un peu. Apparemment, il est en train d'apporter ce 2 enfants. Et c'est écrit dans la Mechilta, un livre de la Torah, c'est écrit que, vous savez que quand Moshe Rabbeinu est arrivé à Midian, il était habillé comme un Égyptien. Yitro ne savait pas qui il est. Ça, il ne savait pas qui il est. Mais après, il a trouvé qu'il a tué quelqu'un en Égypte. Et Yitro, c'était un des 3 conseillers de Paro. C'est vrai qu'il s'est sauvé d'Égypte. Pourquoi il s'est sauvé? Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'on prend du bébé innocent et on le jette dans le Nil. Alors, il ne pouvait pas dire non, mais il ne voulait pas participer. Il s'est sauvé dans le désert. Et c'est là qu'il est devenu un prêtre. Mais il a gardé toujours une certaine relation avec Paro. C'est écrit dans le Midrash, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, et les filles ont dit, c'est un Égyptien qui nous a sauvés. C'est écrit que quand il a trouvé qu'il s'est sauvé de Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en prison 10 ans. Il avait une prison chez lui à la maison. Il l'a mis là-bas 10 ans. Il voulait qu'il meure de faim. Il lui a pas nourri. C'est Tzipora. Chaque jour, elle allait et lui a apporté du manger, elle lui a glissé du manger sans que le père sache. Après 10 ans, il a dit à son père, mais qu'est-ce qui est devenu de cet homme-là qui est resté en prison? Et son père a dit, il a dû mourir déjà. Il dit, mais s'il est vivant, ça veut dire que c'est un homme qui fait des miracles. Est-ce que je peux l'épouser? Son père lui a dit oui, en croyant qu'il est déjà mort. Quand il a ouvert la prison, il a trouvé que Moshe Rabbeinu était vivant. Alors là, sa fille, Tzipora, elle a dit, voilà, tu m'as promis que je peux marier à cet homme et se marier avec Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'Yitro avait toujours la relation avec, une bonne relation avec Paro. Maintenant, il lui dit à Moshe Rabbeinu, tu veux marier ma fille? Il dit oui. Il dit, j'ai une condition. C'est quoi? Un de tes enfants n'a pas le droit de se circoncire. Il savait que lui, c'était un hébreu. Les hébreux se circoncisaient. Ils faisaient la Mila, Brit Mila. Il dit, un de tes enfants, je ne te laisse pas le circoncire. Il dit, comment? Mais on est obligé de circoncire nos enfants. Il dit, ça, la condition. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu laisses. Et Moshe Rabbeinu a accepté. Vayoel Moshe, la chef était Taïch, et Moshe a accepté de s'asseoir avec cet homme. Qui veut dire, Rachidi Yoel, le mot Yoel, c'est prêter serment. Il a prêté serment, comme quoi, qu'un de ses enfants ne sera pas circoncis. Le premier aîné, il a circoncis. Gershom aîné, il a circoncis. Eliezer aîné, il n'a pas circoncis. Parce que, il a juré. La circoncision va prendre place où? Dans le désert. Quand Moshe a été envoyé 60 ans plus tard, il va être envoyé en Égypte par Hachem, va sauver les Hébreux, c'est écrit qu'il est en route avec sa femme et avec ses enfants au début, avant qu'il rencontre son frère qui lui a dit renvoie la femme et les enfants chez tes beaux-parents. Alors il prend en route et voilà, il campe, il va camper dans la route. C'est écrit que le temps qu'il a préparé le camp, il y avait un serpent qui est venu, il lui a avalé de la tête jusqu'à sa Brit Mila, et après le serpent a fait le demi-tour, il a avalé de pied jusqu'à la Brit Mila. La Torah nous dit, Tzipora a compris, ça y a quelque chose qui a à voir avec Brit Mila ici, il a trouvé une pierre aiguisée, elle a fait la circoncision de son fils. Elle a pris le morceau de peau, elle a jeté au serpent, et c'est là que le serpent a lâché. Elle a dit, voilà, à cause de cette Brit Mila qu'on n'a pas fait à notre fils, presque j'ai perdu mon mari. Presque, et voilà que Moshe a été sauvé à la fin de ce Brit Mila. Mais comment est-ce que Yitro, comment est-ce qu'il peut dire cette condition? Vous allez comprendre qu'Yitro, il était, si on retourne un peu en arrière, pourquoi est-ce que Moshe a dû sauver les filles d'Yitro jusqu'à qu'il a accepté de lui donner une de ses filles? C'est écrit que Yitro, qui était le prêtre de Midian, c'était le chef de toute Midian, c'était le plus grand idolâtre au monde, c'était le pape. S'il portait la kippa rouge comme ça, tout le monde venait chez lui et il donnait des brachot et des choses comme ça. Jusqu'au jour que Moshe est arrivé à Midian. Qu'est-ce qui est arrivé? Sans relation, Yitro a pratiqué toute idolâtrie au monde jusqu'à qu'il a réalisé que tout est faux. Tous les idoles n'ont rien. C'est une croyance en l'air. Alors il est devenu athée. Là, sa communauté l'a excommunié. Ils ont dit quoi? Tu laisses les idoles maintenant? On te excommunie. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte, Parashat Shemot, les filles qui sont arrivées ce jour-là pour abreuver leur troupeau, le berger n'ont pas laissé. Ils ont objecté. Il fallait que Moshe, qui est venu ce jour-là, il se bat avec ce berger-là et il leur donne à boire. Il abreuve le troupeau. Là, quand ils sont venus, un Égyptien nous a sauvés. Il croyait que c'était un Égyptien. Et voilà, mais quand il a trouvé qu'il a tué quelqu'un, il lui a dit, alors ça veut dire que Yitro, tu n'es plus idolâtre. Tu n'es plus. Pourquoi tu fais une condition avec Moshe Rabbeinu de ne pas circoncire son fils? Qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que ça dérange? Non. Ça dérange parce que Yitro a dit, voilà, il s'est converti. Yitro, il va terminer de pas se convertir. Il dit à Moshe Rabbeinu, écoute, un enfant, il faut le laisser grandir naturel. Tu le laisses. Sauvage, bien, laisse-le avec ses qualités. Un jour, il va trouver qu'il y a un Dieu dans le monde. Comme moi, dit Yitro. Moi, j'ai pratiqué tous les idoles au monde et j'arrivais à la conclusion qu'il y a un seul Dieu qui est Hachem. Laisse ton fils, je te fais jurer que tu laisses un de tes enfants grandir comme ça, naturellement. Et un jour, il trouvera qu'il y a un Dieu dans le monde. Moshe ne voulait pas. Parce que Moshe, il dit, c'est pas la manière de notre Torah. Notre Torah est basée sur la Masoret. Masoret, ça veut dire une transmission du père en fils, du père en fils, du père en fils. Si on doit remonter, on monte jusqu'au patriarche, Abraham, Isaac et Yaakov. C'est pas comme ça qu'on dicte nos enfants. Nos enfants, il faut les éduquer. Il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il faut les éduquer tout ça. Mais Yitro, il a objecté. Il a dit, un fils, tu peux le circoncire, tu peux lui donner l'éducation que tu veux. Mais l'autre, tu es obligé de le laisser comme ça. Je vais voir comment il va tourner. Mais là, Yitro, il voit quelque chose. Il voit, il écoute deux choses qui lui ont fait venir et lui ont fait changer son idée. Qu'est-ce qu'il a écouté? C'est ce qu'il dit Rashi. Il a écouté la traversée de la mer. Quand la mer s'est ouverte, et les Hébreux ont passé, les Égyptiens sont noyés, il a écouté la guerre de Amalek tout de suite après. Amalek qui est venu attaquer le peuple d'Israël sans raison. Il dit, regardez, les Hébreux, ils sont en train de sortir dans le désert, 3 millions de personnes, hommes, femmes et enfants, ils rentrent dans la mer avant qu'elle soit ouverte. Parce que la mer s'est pas ouverte au début. Les Hébreux, ils avaient peur. Et Hachem lui dit à Moshe, mais rentrez dans l'eau. N'attendez pas que l'eau s'ouvre. Rentrez dans l'eau. Si au moment que vous allez croire que vous allez vous noyer, c'est là que l'eau va s'ouvrir. Et comment tu dis à ta femme et tes enfants, rentre dans l'eau, et quand on va presque noyer, il faut beaucoup d'émouna. Et après ça, comment tu sors Bechlal dans le désert, avec des enfants, des femmes, sans provision, sans eau, sans boire, manger, sans boire. Comment tu fais tout ça? La émouna. Parce qu'il y avait une fois un patriarche qui s'appelait Avraham. Et ce patriarche, il avait plein d'émouna, il avait beaucoup d'émouna en Hachem. Après lui, il y avait son fils Yitzhak, il avait beaucoup d'émouna en Hachem. Et après, il y avait Yaakov. Et voilà, Moshe est en train de ressortir toute cette croyance qu'il y avait en Hachem. Le peuple a suivi. Dit trop, c'est incroyable. Regarde qu'est-ce qu'il peut faire un émouna. Un émouna peut te faire croire en Hachem et sortir aveuglément dans un désert avec une femme et des enfants, rentrer dans l'eau. Et après, qu'est-ce qui arrive? Des miracles. La mer s'ouvre, la manne commence à tomber du ciel. Un puits qui les a accompagnés 40 ans, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la massorette, la transmission, c'est quelque chose qui, ça demande beaucoup de croyances, mais ça a aussi des conséquences, des bonnes conséquences. De l'autre part, il voit Amalek. Amalek, c'est quoi? Amalek, c'est un peuple que sa mère, Timna, la mère s'appelait Timna, la mère d'Amalek, elle voulait se joindre, elle voulait se convertir. Avraham l'a refusé. Pour une raison ou pour une autre, Avraham a refusé cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, si je n'ai pas la chance de se marier avec Avraham, au moins je marierai dans la famille avec quelqu'un de la famille. Qui l'a trouvé? Eliphaz, le fils de Esav. Le fils de Esav, elle a dit, et lui aussi ne voulait pas la marier, mais il a pris comme concubine. Concubine, c'est une amie sans ktouba. C'est sa femme, ça veut dire c'était plutôt pas une amie, une femme sans ktouba. Entre les deux, ils sont sortis sur Amalek-là. Sur Amalek-là, comme les Arabes aujourd'hui, exactement. Qu'est-ce qu'ils font les Arabes? Ils sont en train de leur éduquer leurs petits-enfants depuis leur naissance. Contre le juif, il faut tuer un juif, il faut le massacrer et tout ça. Et ces petits-enfants, de jour en jour, ils entendent ça. Ça pénètre dans leur sang. Ce qui fait qu'à un certain moment, ils veulent s'exploser. Ils ont de bonnes causes. C'est comme ça. Amalek, sa mère, c'est comme ça qu'elle a élevé. Tu sais, Avraham m'a refusé, il ne voulait pas que je me convertisse, et les juifs ne sont pas bons, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. Comme ça, il a grandi jusqu'à qu'il a trouvé un moment que, voilà, il s'est fait un petit peuple, Dès que le peuple d'Israël sort, il vient les attaquer sans raison. Sans raison. Pourquoi ? Contre le Dieu et contre le peuple. Alors Yitro, il dit, voilà, tu laisses pousser un enfant sans l'éducation, sans croyance, sans rien du tout. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un Amalek. Ça veut dire que sa manière d'éducation, qui voulait dire à dicter à Moshe Rabbeinu, de laisser un enfant pousser comme ça, comme un champignon, tu le laisses comme ça naturellement, ça peut donner des champignons très empoisonnés. Ça peut donner des Amalek. Et là, il est venu s'excuser auprès de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que la Torah dit ? Il est venu avec la femme et les deux enfants. Les deux enfants, pour dire à Moshe Rabbeinu, tu as raison. Tu as raison dans ta manière de penser qu'on ne peut pas laisser un enfant pousser comme il veut et grandir comme il veut. Il faut lui donner la emouna, l'éduquer, la croyance en Hachem. La croyance en nos patriarches, en nos valeurs. C'est rien comme ça un enfant peut grandir. Maintenant, vous allez comprendre. C'est quoi l'histoire que Moshe est monté à Sinaï, et il voit là-bas une discussion de rabbins. Un qui dit que la vache rousse, le rabbinim qui disait que la vache rousse, elle doit avoir trois ans avant de la égorger et la brûler. Et Rabbi Eliezer qui disait 2 ans. Et mon cher rabbin qui dit, j'espère que ce Rabbi Eliezer sera de ma descendance. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors on dit que si on regarde Parshat Chukat, Rashi là-bas, il rapporte Rabbi Moshe Darshan. Rabbi Moshe Darshan, c'est un commentaire sur la Torah qui dit, en vérité, on n'a pas d'explication sur la vache rousse, mais on peut donner une explication. C'est quoi l'explication? On dit qu'une servante, son bébé, il a joué dans le palais royal. Et malheureusement, c'était un petit, il a sali le palais royal. Il a fait ses besoins par terre. Le roi s'est énervé, il a appelé sa mère et dit, viens nettoyer la saleté de ton fils. Regarde ce que ton fils t'a fait, il a sali le palais. Dit le Rabbi Moshe Darshan, c'est la même chose. Dans le désert, malheureusement, il y avait un épisode du veau d'or. Le veau, c'est le bébé. Qui est sa mère? La vache. Le veau a sali le peuple juif. Parce qu'avec cette faute, Akadosh Baruch Hu s'est énervé contre le peuple. Dit Hachem, le veau en or. L'or, c'est rouge. C'est rougeâtre. Alors dit Akadosh Baruch Hu, qu'elle vienne la mère, qui est la vache rousse. Et en la égorgeant, en la brûlant, et en prenant le cendre de cette vache, on va asperger tous ceux-là qui sont impurifiés par ce veau d'or. Alors qu'elle vient la mère, elle nettoie la saleté de son fils, le veau d'or. C'est comme ça qu'il explique Rabbi Moshe Darshan. À quel âge une vache peut donner naissance? À partir de 3 ans. À partir de 3 ans. C'est pour cela, Chachamim, ils ont dit, la vache rousse, ce que à partir de 3 ans, pas plus, pas moins que ça. S'il est moins que ça, elle ne peut pas donner naissance. C'est pas qu'elle doit donner naissance. Elle n'est pas apte à donner naissance. Elle n'est pas valable. Viens Rabbi Eliezer dit non, pas besoin. 2 ans. Pourquoi 2 ans? Pourquoi dire que c'est la raison que la mère doit venir nettoyer la saleté de son fils? Qui s'est dit que c'est la raison? La vache rousse, c'est une loi sans explication du tout. Il faut pas chercher. Il faut pas chercher, même pas tenter de chercher des explications. Quand Moshe Rabbeinu il voit le raisonnement de Rabbi Eliezer, il dit, j'espère que celui-là sortira de moi. Pourquoi de moi? Parce que il cherchait des raisonnements dans la Torah. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et voilà, il faut laisser les enfants grandir comme ça et laisse-leur trouver. Tout doit être raisonnable, tout doit être explicable dans la Torah. Moshe Rabbeinu il dit non. Dans la Torah, il ne faut pas chercher tout comprendre. La Torah dit faire certaines choses, il faut le faire avec croyance. Pourquoi on le fait? Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour comprendre toute la Torah, pourquoi elle est faite. La Torah dit le faire, moi je le fais. Sans comprendre. Et c'est la raison de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer exprès a dit que la vache a besoin de 2 ans parce qu'elle ne peut pas donner naissance à 2 ans. S'il ne peut pas donner naissance, c'est sûr que ce n'est pas la raison que la mère vient nettoyer la saleté de son fils parce qu'elle ne peut pas être une mère. Une vache de 2 ans ne peut pas être une mère. Dis mon cher Rabbi, j'espère que ce raisonnement-là sortira d'un de mes enfants. Ça veut dire qu'à la fin, que Rabbi Eliezer sortira de moi parce que moi je suis dans cette horde d'idée qu'il ne faut pas avoir de raison dans la raison de la Torah. La Torah dit, il faut que tu suis. La fin de toute cette histoire, qu'est-ce qui arrive à la fin? Malheureusement, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, c'est ça? Le petit-fils s'appelait Yonatan. Le fils s'appelait Gershom. Son petit-fils s'appelait, le fils de Gershom s'appelait Yonatan. Ce Yonatan-là, il est devenu idolâtre. Il a servi dans une maison d'idolâtrie. Il y avait, avec le peuple juif, quand ils ont traversé la mer, il y avait un bébé qui s'appelait Micha. Ce Micha-là était un bébé qui a été écrasé dans un mur de briques par les Égyptiens. Le Midrash raconte que quand ils ne complétaient pas la quantité de briques requises, ils prenaient des bébés et leur cimentaient dans le mur. Moshe Rabbeinu avait du mal à le voir. Et Hachem lui dit, laisse. Tu sais que ce bébé-là, ils vont monter directement à Gan Eden. S'ils vont vivre comme des hommes normaux, ils vont être des grands idolâtres, des grands pécheurs, et il vaut mieux qu'ils meurent comme ça, innocents, et aller directement à Gan Eden. Moshé, il n'a pas compris cette notion. Il a dit, Hachem, comment des bébés innocents comme ça, tu me dis, Hachem me dit, tu sais quoi, Moshé, va sauver un, et tu vas voir toi-même qu'est-ce qui va arriver. Moshé Rabbeinu a sauvé un bébé comme ça. Ce bébé-là, il lui a donné le nom de Micha. Ce Micha-là était idolâtre. Quand le peuple juif a voulu traverser la mer ne voulait pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce que dans sa poche, il y avait une idole. Et la mer a dit, mais des Hébreux sont idolâtres et les autres, ils sont idolâtres. Pourquoi je vais noyer les Égyptiens, pas les Hébreux? Là, dans le prophète, c'est écrit, il n'avait pas une idole carrément dans la poche, il avait de l'argent. Mais avec cet argent, il pensait déjà acheter une idole et pratiquer idolâtrie. Et la mer ne voulait pas s'ouvrir à cause de lui. Et qui c'est lui? C'est le bébé qui a sauvé Moshé Rabbeinu. Ce bébé qui a sauvé Moshé Rabbeinu, voilà qu'est-ce qu'il est devenu. Quand le peuple d'Israël a passé le Jourdain, lui est resté de l'autre bord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est construit dans le désert une maison d'idolâtrie. Et tout juif perdu dans le désert, il l'a accueilli chez lui et lui a appris l'idolâtrie. On dit qu'un jour, le petit-fils de Moshé Rabbeinu, Jonathan, s'est perdu dans le désert. Il s'est trouvé dans cette maison où il lui a donné à manger, à boire. Il lui dit, écoute, toi, tu es le petit-fils de Moshé Rabbeinu. À moi, ce serait un grand honneur si tu serais un prêtre dans cette maison. Et comme ça, il a acheté ce petit. Et ce petit, le petit-fils de Moshé Rabbeinu est devenu idolâtre dans cette maison. Qui c'est qui va le sauver? Le roi David. Le roi David, quand il a appris que le petit-fils de Moshé Rabbeinu est en train de servir une maison d'idolâtrie, il dit, c'est pas possible. Il a cherché, qu'est-ce qu'il aime ce petit? Et apparemment, il aimait de l'argent. Alors il a dit, je t'offre toutes sortes d'argent et je te ferai le ministre de trésor, de mes trésors. Rien ne vient envers moi et il est venu. Et c'est écrit qu'il a fait Tshuva Shlema. Il s'est repenti, il a regretté toute l'idolâtrie qu'il a pratiquée dans sa vie. Il est resté avec le roi David. Malheureusement, il a dépassé la vie de David. Il a eu une longue vie, il a dépassé. Et quand David HaMelech est décédé, il est retourné dans cette maison d'idolâtrie. Il est retourné. Et on dit, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que le père, Moshé Rabbeinu, a été d'accord avec son beau-père Yitro qu'un de ses fils ne sera pas circoncis. Et il grandira comme ça jusqu'à qu'il trouvera un jour le chemin vers le judaïsme. Alors il ne fallait pas qu'il soit d'accord. Et voilà quelle était la conséquence. Un de ses petits-fils, il est devenu idolâtre. Pour dire que voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas accepter. Les enfants, il faut leur encadrer. Là, ça va bien avec le reste de la paracha. Pourquoi? C'est écrit quand les Hébreux, ils sont arrivés devant le mont Sinaï, c'est la paracha, on va recevoir la Torah. C'est écrit qu'ils ne voulaient pas accepter la Torah. Comment ils ne voulaient pas accepter la Torah? Ils ont dit Naase, Venishma. On fera et ensuite on écoutera. Alors pourquoi on dit qu'ils ne voulaient pas écouter? Parce que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Ils étaient prêts à recevoir la Torah écrite, mais pas la Torah orale. La Torah orale, c'était trop. Tout ce que la Torah dit, les 10 commandements, on les accepte. La Torah écrite, on l'accepte. Toutes les interprétations, tous les commentaires, tout ce qui est dans la Torah orale, ça on n'accepte pas. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu en ce moment? Il prend la montagne du Sinaï, il le renverse par-dessus la tête, il leur dit, si vous acceptez le 2, ça va. Sinon, là-bas vous allez mourir. Alors vous la recevez ou pas? C'est écrit qu'ils étaient obligés. Tu as une montagne par-dessus la tête. Si tu ne reçois pas, tu meurs. C'est ça? Ça veut dire que comme si la Torah a été forcée sur le peuple juif. Oui, ça a été forcé, mais beaucoup plus tard, quelques générations plus tard, quand il y aura l'histoire de Mordechai, Esther et Aman, ils vont accepter cette Torah par volonté. Ils vont dire oui. Maintenant, on accepte la Torah orale par volonté. Kimouv et Kiblou à Yehudim, les Juifs ont accepté par volonté la Torah orale. Il faut comprendre d'abord le Midrash, si on analyse le langage du Midrash, c'est écrit, il a pris la montagne, il les a renversés par-dessus la tête comme une cuvette. C'est comme ça, kegigit, une cuvette. Ensuite, c'est écrit, si vous acceptez la Torah, ça va, vim lav, sinon, sham, tekvuratrem. Normalement, il ne faut pas dire sham. Sham, ça veut dire en hébreu, là-bas. Mais si tu renverses la montagne sur leur tête, il faut dire, ici. La montagne est par-dessus de vous, de vos têtes, ici vous allez mourir. Pas là-bas, qu'est-ce que c'est là-bas? Ici. Pourquoi on dit là-bas? Là, je pensais un peu à expliquer c'est quoi la représentation d'une cuvette et qu'est-ce qu'il leur dit là-bas et tout ça. Il faut comprendre, des fois, des gens ils disent que notre Torah est très, elle limite trop la personne. Écoute, il faut manger kasher, tu peux pas manger partout. Il y a tellement de restaurants. Non, tu peux pas rentrer ici. Même le kasher déjà, ça c'est kasher, ça c'est pas assez kasher. Et ça, Shabbat, c'est limité. Tu peux pas rentrer ici, tu peux pas faire la lumière. Tout est limité. Si on regarde la Torah, en vérité, elle limite beaucoup. Il y a beaucoup de limitations. Mais il faut comprendre ces limitations-là sont notre liberté. Pourquoi? Quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut, il est limité. Parce qu'il est dominé par son mauvais penchant. Si le Yetzer Hara, tu sais que la cigarette c'est mauvais et tu fumes, c'est le Yetzer Hara qui te dit de le faire. Alors qu'est-ce qui arrive? Fume, Chas v'Shalom, ils peuvent tomber malade. Si tu sais que tu es diabète, mais tu aimes le sucre, tu aimes des gâteaux, tu aimes les sphinx, tu aimes la moufletta, tout ça, hein, tu sais c'est quoi les conséquences. Mais tu ne peux pas t'arrêter parce que tu n'as pas de barrière. Parce que tu veux être libre. Oui, tu veux être libre. Mais la liberté, c'est le danger. Parce que tu es en train d'être muni dans la main par le Yetzer Hara. Mais quand tu es limité, c'est comme on a pris quelqu'un, on lui a mis une cuvette par-dessus la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? La cuvette, elle est creux, elle est profonde, c'est ça? Alors quand on met à quelqu'un la cuvette, ça veut dire qu'il est limité. Il ne peut pas aller n'importe où, il est limité. Mais par contre, dans le limite, il est libre. Il peut tourner dans la cuvette là où ce qu'il veut. Il peut en bas, tout le côté. Il est limité, mais il peut tourner librement. Tandis que quelqu'un qui se trouve hors de la cuvette, lui, il est vraiment limité parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais tout ce qu'il veut, ça va l'amener à des maladies, à des choses qui sont graves. Alors là, on va comprendre. Il a pris la montagne, il l'a renversée par-dessus la tête. Ne croyez pas d'être libre et faire tout ce que vous voulez, sa liberté. Non. Cham, si vous sortez de cette cuvette, c'est là-bas. Dans ce monde qui est libre, tiens que vous ratrez, vous allez mourir, Chas v'Shalom. C'est en limitant le peuple, c'est là qu'ils vont devenir, un peuple libre. Là, et c'est ça qu'on dit que les enfants, qu'on a dit que Moshe Rabbeinu a dit, il faut leur donner l'éducation de la Torah. C'est vrai, il y a des limitations quand dans nos enfants. Par contre, quelqu'un qui laisse son fils grandir comme il veut, un jour, il n'aura pas de contrôle sur cet enfant. C'est quand on limite quelque chose, c'est là qu'il y aura de bons résultats. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de l'acceptation, la réception de la Torah dans cette paracha, parce que ça a à voir avec les discussions qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et avec aussi Yitro. Bon, on va